Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 février 2022 et je dois dire que ce matin j'ai longtemps hésité avec les titres de cette vidéo. Pendant les dents, prends ça dans ta gueule. Et oui, 7,5 c'est trop, 7,3 ça aurait été bien, mais 7,5 ça va pas. Enfin bref, il y a le choix. Hier, les chiffres du CPI sont sortis. 7,5% d'inflation, c'est donc le plus qu'on ait jamais vu depuis je sais même plus combien de temps. La dernière fois, c'était depuis 40 ans, donc c'est certainement depuis plus de 40 ans. C'est une catastrophe. On attendait 7,3, donc les 0,2%, ça change toute la photo, mais alors vraiment toute la photo. Avant, à 7,3%, on se disait, oui, ils vont monter les taux tranquillement. On parlait de 6, 7 fois par année, donc voilà, c'était plutôt dans les prix, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Mais par contre, alors 7,5%, ça, c'est clairement le début de la fin du monde. Alors globalement, ce qu'il faut surtout retenir sur les chiffres qui sont sortis hier, c'est qu'il n'y a pas de pic. On attendait de voir peut-être un signal comme quoi il y avait un pic dans l'inflation, que les marchés étaient arrivés à un cycle où finalement on voyait qu'on était plutôt en train de faire un top et que finalement on allait pouvoir recommencer vers une inflation qui allait se réduire et donc recalculer nos expectations de hausse des taux. Et ben en fait, pas du tout. Pour l'instant, il n'y a pas de pic. Alors pendant les premières minutes, on a essayé de digérer la chose relativement bien, enfin suffisamment pour que les Européens n'aient pas le temps de baisser avant de rentrer à la maison. Et puis tout d'un coup, il y a Monsieur Bullard qui est venu parler. Alors grosso modo, Monsieur Bullard, c'est un des membres de la Fed, un des mecs qui décide si les taux doivent monter ou doivent pas monter. Monsieur Bullard, c'est la version ultra hawkish de tous les mecs qui sont dans la Fed. Hein. Donc si on va dire qu'aujourd'hui Jérôme Powell est hawkish, lui c'est une escadrille de faucons à lui tout seul. Donc hier, il est venu faire un discours. Déjà, alors excusez-moi, mais je ne comprends pas comment on laisse ces mecs faire des discours juste après un chiffre aussi important. Je comprends déjà pas pourquoi on laisse ces mecs faire des discours, mais peu importe. Donc il a fait un discours hier en disant que lui, il était vraiment convaincu qu'il fallait monter les taux, il fallait le faire agressivement, et il a même estimé qu'à son sens, d'ici juillet, on aurait monté les taux de 1% déjà. Alors ça, on n'était pas trop près. Hein. 1% d'ici le mois de juillet, on voulait bien estimer 0,5, allez maximum 0,75 d'ici cet été, mais 1%, ça, on l'avait pas vu venir. Alors donc, du coup, le marché n'a pas aimé, donc enfin, vous connaissez la suite, quoi. Début de panique, fin du monde, oh, c'est horrible, on va tous mourir dans notre souffrance. Donc du coup, le marché a décalé, il n'y a rien qui a résisté à tout ça, et on est parti en vrille. Alors du coup, vous avez les rendements qui sont partis en sucette, vous avez le 2 ans qui est monté de 1,32-1,33 à 1,63, le 10 ans qui est monté jusqu'à 2,02. Oui, nous sommes au-dessus de 2% sur le rendement du 10 ans. Ça, je vous l'avais dit quand même. Donc, on a tapé les 2%, c'est fait, c'est vu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, on sait pas trop. En tout cas, là, on est en mode panique. Enfin, panique, j'exagère peut-être un petit peu. Mais en tous les cas, on est en mode gros stress parce que ils vont monter les taux. Alors, oui, on savait, ils vont monter les taux. La question, c'est peut-être ils vont les monter plus vite, plus fort, et ça va faire plus mal que prévu. Ce qu'il faudra donc retenir, c'est que avant la déclaration de Monsieur Bullard et avant la publication des chiffres du CPI, la probabilité de voir les taux monter de 0,5% en mars était grosso modo autour de 45-50%. Aujourd'hui, on est à 95%. Donc là, je crois que c'est clair. Donc après, le reste, vous connaissez. On parle de rotation de secteur, on parle de value stock, on a pris les tech stocks, on les a alignés contre un mur, on leur a bandé les yeux et on a tiré à vue pour les exécuter. Donc c'était un bain de sang sur la tech. Bon, ça va, hein. 2,1% de baisse sur le Nasdaq, c'est pas la fin du monde. 1,8% de baisse sur le S&P 500, c'est pas la fin du monde non plus. Par contre, quand on regarde les graphiques, alors franchement, c'est pas le truc le plus joli qu'on ait jamais vu. Moi, je suis pas un expert en prévision, j'aime pas faire les prévisions, mais en tous les cas, quand je vois la gueule de certains graphiques, Nasdaq entre autres, on voit que le sell-off de hier n'a pas fait que du bien, mais je crois que celui qui est pire à regarder encore, c'est le S&P 500 qui lui a vraiment une sale gueule. J'espère qu'on va en tout cas tenir les niveaux des 4450 sur le S&P 500, parce que sinon, si on casse les 4450 sur le S&P 500, il y a de fortes chances qu'on retourne au plus bas du 24 janvier, c'est-à-dire à 4219 sur le S&P 500 et 13725 sur le Nasdaq. Et donc du coup, c'est pas très beau et du coup, ça pourrait être vraiment très très moche en termes de configuration. Enfin, on verra, on va pas non plus vendre la peau du boule avant de l'avoir tué, mais c'est clair que pour l'instant, les graphiques sont pas beaux, les nouvelles sont pas bonnes, les gens sont relativement stressés, et puis surtout, au milieu de tout ça, il y a cette espèce de conviction comme quoi, de toute façon, on doit se la prendre, ce crash, il doit venir, donc tout le monde l'attend paisiblement. Pas sûr que ça se réalise comme ça, mais en tous les cas, pour l'instant, eh bien, on a cette espèce d'ambiance en disant « Oui, de toute façon, je vous l'avais dit, et puis le marché va se péter la figure, et puis on va tous mourir dans d'atroces souffrances. » Parlons d'Uber ce matin. Alors Uber, souvenez-vous, ils ont publié leurs chiffres mercredi soir, des chiffres qui étaient très bons, très encourageants. Le titre montait d'ailleurs plus de 6%, 7% after close mercredi soir. Et puis hier matin, alors ils ont stoppé le titre sur Uber. Stoppé le titre, alors ça veut dire quoi stopper le titre? D'habitude, ça se fait pas vraiment couramment sur les marchés. En général, c'est soit parce qu'ils vont annoncer un takeover, soit parce qu'ils sont en train d'annoncer qu'ils partent en faillite. Donc du coup, ça met toujours un petit peu une bonne ambiance. Hein. C'est là, si vous avez un long straddle, c'est-à-dire long call, long put, eh bien vous dites, ah, ça peut être un bon truc parce que de manière ou d'une autre, ça va bouger dans un sens, quoi. Donc c'est clair que on a eu ce stop sur Uber, tout d'un coup les gens se sont dit, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Et puis bah, il y avait une conférence de presse, il y avait un analyst meeting, comme on appelle ça, et dans le courant de l'analyst meeting, eh bien Uber a annoncé qu'ils avaient des prévisions pour 2024 qui étaient dithyrambiques. Donc il faut savoir qu'Uber a fait une perte de 775 millions sur 2021 et qu'ils s'attendent à un bénéfice en fait de 5 milliards en 2024. Alors c'est super, hein, 5 milliards de bénéfices en 2024, alors c'est vraiment fantastique. Alors, ça peut faire un peu doucement rigoler parce que 5 milliards de prévisions pour 2024, déjà vu la visibilité qu'on a en ce moment, on peut quand même s'interroger sur l'état mental du management de Uber et l'état mental de Wall Street en général de toute manière, mais ça c'est pas nouveau. Donc du coup on se dit oui, mais dans 2 ans et demi, 3 ans, on va gagner 5 milliards. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pars du principe, je me dis moins 775 millions à plus 5 milliards. À horizon 2 ans, 3 ans, c'est quand même plutôt bien. Eh ben en fait, non, pas du tout, parce que c'est exactement ce que Wall Street attendait, parce que vous avez déjà anticipé tout ça. Eh ben, on est tellement fort là-bas, je veux dire, les gens, les spécialistes, les analystes, c'est tellement des brutes, les mecs, ils ont un track record, ces derniers temps, ils sont juste sur tout. Tous les résultats qui sortent, toutes les publications d'inventaire pétrolier, toutes les publications économiques, on est juste à chaque fois... Non, je déconne. Mais enfin bref, donc du coup, ils avaient déjà anticipé la chose, soi-disant, et donc du coup, alors c'était une... Ouais, il fallait vendre la nouvelle, donc du coup, les gens, ils ont vendu Uber. Donc Uber, après la clôture, mercredi soir, était en hausse de 6%, était stoppée jeudi matin, et quand elle a rouvert, elle a fait que de baisser, puis finalement, elle se fait démonter sur la journée. Donc franchement, c'était une super bonne journée pour Uber, on a cru que c'était pas mal, mais en fait, non, tout cru, patate crue, hein. En tout cas, il y a une chose qui me fait rigoler en ce moment, c'est que quand on voit la manière, le comportement finalement des marchés et la réaction des gens, je me demande s'ils n'auraient pas eu le temps de faire une thérapie, mais je dis pas les gens, en fait c'est le marché. Si le marché était une personne en tant que telle, je crois qu'il faudrait juste qu'elle se fasse psychanalyser puis qu'elle se bourre de Xanax, parce que là franchement, on a un peu l'impression que le marché est dans une espèce de dépression où finalement il interprète tout ce qu'il a envie d'interpréter en disant oui je sais, mais c'était bien, mais non je savais pas, mais c'était pas bien, enfin bref, c'est vraiment toute une question d'interprétation et les fondamentaux pour l'instant c'est très le mepecho, hein. Il n'y a pas d'autre terme, on se dit oui c'est bien mais on le savait donc c'est pas bien, donc c'est vraiment difficile d'avoir une vision à moyen terme, voire à court terme. Franchement, on est un petit peu paumé pour l'instant, on voit que le marché est en train de se chercher en ce début d'année, et c'est franchement pas facile avec des annonces pareilles. Et puis, il faut parler aussi de l'histoire de Affirm. Alors, Affirm, c'est une boîte qui fait du crédit sur Internet, c'est une boîte qui est en partenariat avec Amazon, donc quand vous achetez un vélo Peloton sur Amazon à 1 500 $, vous pouvez le payer en 39 mois, ce qui fait que du moment où vous aurez fini de payer votre vélo, ça fera déjà probablement environ 35 mois qu'il est dans le garage avec le rameur et la machine à abdos. Du coup, Affirm vous permet finalement de fractionner vos achats. Donc c'est l'accumulation du crédit, grande spécialité américaine. On l'a vu l'autre jour avec le dépassement de la dette américaine de 30 milliards, enfin je sais plus combien, mais 30 en tout cas. On n'a jamais été aussi haut sur la dette américaine. Donc on continue dans cette dynamique au niveau de la dette. Et alors sur Affirm, eh bien c'est une boîte qui avait été un peu une des stars de l'été passé. Et puis surtout jusqu'au mois de novembre, hein, puisque le partenariat avec Affirm et Amazon, entre Affirm et Amazon, avait fait que le titre était monté à plus de 170 $. Alors là, c'est plus vraiment ça. Hier, ils ont donc publié leurs résultats qui étaient meilleurs que les attentes globalement. Mais le problème, c'est qu'ils ont publié les résultats par erreur en avance sur Twitter. Donc il y a un idiot chez Affirm qui a publié les chiffres directement sur Twitter. Donc du coup, le marché connaissaient les chiffres, et quand les chiffres sont sortis, bah, c'était dans les attentes de Wall Street. Bah ouais, forcément, ils les connaissaient depuis une heure. Enfin, moi aussi, si vous me filez la DeLorean, je peux aussi partir dans le futur et puis vous gagner l'euro million toutes les semaines pendant les 20 prochaines années. Enfin, toujours est-il que la nouvelle a moyennement plu à Wall Street. Le titre a perdu 20% dans la séance. Et oui, la sanction est sévère. C'est un peu comme Via Sicura en Suisse. Les lois sont complètement disproportionnées et les sell-off sont aussi complètement disproportionnés à Wall Street. Donc, du coup, on a le titre qui s'est fait déglinguer de 20%. Et comme si ça ne suffisait pas, après la clôture, on a remis une couche supplémentaire et le titre a perdu encore 7%, donc sale journée pour Affirm, $170 à la fin du mois de novembre, $54 after close hier soir. Vous l'aurez compris, hier soir, c'était pas une journée top, ça risque de continuer encore aujourd'hui quand on voit la gueule des futurs ce matin. En tout cas, il faut bien dire que les Européens, une fois de plus, ils ont raté la fin du sell-off, donc ils vont devoir se rattraper ce matin, on connaît un peu l'histoire. L'Europe a fini flat hier, mais là, il va falloir compenser. On parle donc de hausse des taux de plus de, enfin, de 1% d'ici au mois de juillet, donc ça ne plaît pas du tout. Bref, l'ambiance est pourrie, l'angoisse est présente et les gens sont tous en train de vendre. C'est vrai qu'on nous a prédit un crash depuis longtemps. Alors moi, les crashs qui sont prédits, je ne suis pas monstre fan parce que les crashs annoncés, j'en ai jamais vu qui fonctionnaient. Mais enfin bref, pour l'instant, on est en mode panique. On parle de support, je vous l'ai dit tout à l'heure. On parle d'aller retester les niveaux de l'audio. Bref, c'est pas super euphorisant pour l'instant. Donc si aujourd'hui vous tapez sur n'importe quel site financier, vous tapez l'adresse sur internet marketwatch.com, cnbc.com, barons.com, wallstreetjournal.com, vous verrez globalement que des mauvaises nouvelles et que des gourous qui viennent parler à la télé pour dire qu'ils nous avaient dit que ça allait baisser, que le buy the dip ça fonctionne plus, que le crash est à nos portes. C'est assez marrant parce que dans ce genre d'ambiance, si vous avez un tant soit peu un discours un peu positif, on vous laisse même pas rentrer dans les locaux de CNBC, on vous laisse même pas approcher du building de CNBC. Aujourd'hui, si vous voulez faire du média, il faut absolument avoir un discours super négatif. Donc c'est un peu la thématique de ce matin. Donc si tout va bien et si on continue dans cette direction-là, je pense que d'ici lundi matin, on va avoir partout des titres du style « Le bear market est à nos portes » et si la Fed monte les taux de 1% au mois de mars, « Le Nasdaq peut-il baisser de 85% ?» ou encore le fameux « La récession sera-t-elle là cet été ?» Donc en gros, ça va pas super bien, l'ambiance est pourrie, on a une vision à 45 minutes, on voulait des réponses hier, on a eu des réponses, mais elles sont pas celles qu'on avait envie d'entendre, tout le monde est en position « brace » comme dans les avions. On s'inquiète, on se pose des questions, et puis franchement, pour l'instant, on n'a pas la réponse, parce qu'il y a quand même à noter beaucoup de gens qui ont réduit les positions sur le mois de janvier, beaucoup de outflows, on en a parlé déjà dans ces émissions, qui sont arrivés, il y a plein de gens qui ont réduit leurs positions et qui ont du cash plein les oreilles, donc du coup, quand vous avez plein de cash, c'est pas dans ce genre de situation que les crashs arrivent, mais enfin, moi je dis ça, je dis rien, pour l'instant, c'est pas tellement à la mode de faire des commentaires constructifs, donc on va plutôt regarder les pierres tomber et les couteaux tomber, voir jusqu'où ils vont tomber, et quand c'est qu'on pourrait éventuellement commencer à les ramasser pour l'instant. Tout ça pour vous dire, avant le dernier coup d'assommoir politique de la journée, les marchés sont extrêmement tendus. Mais hier soir, Monsieur Biden nous a donné beaucoup de joie et de bonne humeur, puisque le président américain a annoncé solennellement que si les Américains qui étaient encore en Ukraine aujourd'hui ne foutaient pas le camp, il irait pas les chercher là-bas parce que ce serait la troisième guerre mondiale. Alors c'est vraiment un truc qu'on a vraiment besoin d'entendre aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on en parle très peu dans les médias pour l'instant, mais j'ai quand même vu un titre aujourd'hui qui dit Joe Biden déclare que si les Américains ne reviennent pas de Russie, d'Ukraine, il n'ira pas les chercher parce que ça sera la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale. Je dois quand même vous rappeler un truc, c'est que Einstein avait dit « Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y en aura pas beaucoup qui seront là pour se battre pour la quatrième. » Donc les experts côté Russie et Ukraine sont tous plus ou moins convaincus que Poutine est en train de se chauffer et puis que les jours avant l'invasion sont comptés. En gros, la désescalade made in Macron, ça a pas l'air d'avoir marché super. Peut-être que Monsieur Macron devrait aller à Moscou avec sa Clio Diesel pour dire qu'il est pas content et puis il devrait lever la voix parce que c'est son projet. Et puis que peut-être qu'il pourrait essayer de calmer Poutine parce que Poutine n'a pas l'air de monstre l'écouter non plus pour l'instant. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que si les experts ils sont au même niveau que ceux de Wall Street ces derniers temps, on a une bonne chance que ça ne se produise pas. Mais en tous les cas, c'est une tension supplémentaire dont on se serait largement passé à la veille de ce week-end de février. Donc voilà ce que l'on pouvait dire dire aujourd'hui. Donc, on va pas se le cacher. La journée va être probablement très compliquée, un peu partout dans le monde, à notre connaissance. En ce qui me concerne, tout d'abord, je voudrais vous encourager à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Et puis, en plus, je voudrais souhaiter de bonnes vacances de ski aux Genevois, pour ceux qui trouveront de la neige. Autrement, je vous retrouve aussi tout à l'heure pour le Swiss Bliss, dans quelques minutes. Et puis, mis à part ça, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore une fois ce matin. Et puis, ben, comme d'habitude, moi, je vous retrouve lundi matin, parce que j'ai beau être Genevois, ben, je serai quand même là avec vous. Passez un excellent week-end, malgré l'inflation et malgré le fait que, selon Biden, c'est bientôt la troisième guerre mondiale. À lundi. Bye bye.